Le pharmacopée de Carpegnin est au mieux réalisé dans une pièce confortable, calme, avec une atmosphère tempérée, éventuellement dans une semi-obscurité. Et il faut rassurer le patient, l'informer sur le déroulement de l'examen, lui expliquer que l'injection intracaverneuse, ça n'est pas quelque chose de douloureux. On commencera l'examen par une exploration transabdominale de l'aorte, des artères iliaques communes, iliaques internes, iliaques externes. On poursuivra par un examen des pudendales internes et des péniennes communes par voie périnéale, quand c'est possible. Et on examinera enfin les caverneuses par voie de préférence ventrale, en demandant au patient de plaquer la verge contre l'abdomen. En dehors de rares contre-indications, on fera une injection intracaverneuse de prostaglandine E1 et d'ex-sucavergect à la dose de 10 microgrammes, qui est une dose moyenne. Cette dose peut être modulée en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire, d'éventuels examens antérieurs, de l'âge du patient. Chez un jeune patient de moins de 40 ans qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire, on pourra utiliser seulement 5 microgrammes afin d'éviter une érection prolongée. L'examen des flux caverneux se fait au tiers proximal de la verge sur une artère caverneuse principale. Les principaux critères hémodynamiques utilisés sont la vitesse maximale systolique au repos, mais surtout après injection intracaverneuse, la vitesse télédiastolique après injection intracaverneuse, l'indice de résistance et le temps de montée systolique. L'enregistrement optimum est réalisé à partir de la cinquième minute et jusqu'à 20 à 25 minutes après la stimulation pharmacologique, car les paramètres hémodynamiques varient au cours du temps. Le timing de l'enregistrement doit figurer sur le compte rendu et c'est un paramètre essentiel de l'interprétation de l'examen. Les signes directs sont à rechercher en priorité. On va rechercher une sténose ou une occlusion sur une artère iliaque, une pudendale interne, une péniène commune ou une caverneuse. L'examen périnéal étant parfois limité, l'enregistrement des flux caverneux peut néanmoins constituer l'essentiel de l'examen, outre l'examen orthoiliaque. Le principal critère pour définir une insuffisance artérielle érectile, c'est la vitesse maximale systolique après injection intracaverneuse, en dehors bien sûr des signes directs. Il est actuellement admis qu'une vitesse maximale systolique après injection supérieure à 35 cm par seconde, ça traduit une vascularisation normale, tandis qu'une vitesse inférieure à 25 cm par seconde traduit une insuffisance artérielle. Alors, si la spécificité d'une vitesse inférieure à 25 cm par seconde pour affirmer une insuffisance artérielle est de 90%, sa sensibilité ne dépasse pas 50%. Donc la moitié des patients qui sont atteints d'insuffisance artérielle aura une vitesse après injection supérieure à 25 cm par seconde. Par contre, une vitesse supérieure à 35 cm par seconde est suffisamment spécifique et sensible pour éliminer une insuffisance artérielle érectile. La fonction véno-occlusive est au mieux évaluée 15 à 20 minutes après l'injection de prostaglandine. En l'absence d'insuffisance artérielle, elle est suspectée sur une vitesse télédiastolique supérieure à 5 cm par seconde et ou un indice de résistance inférieur à 0,85. Il faut cependant garder à l'esprit que ce seuil a été choisi pour préserver une bonne sensibilité spécificité par rapport à la cavernosométrie, qu'on ne fait plus d'ailleurs, quasiment, et qu'un seuil de 14 cm par seconde paraît plus spécifique pour suspecter une dysfonction véno-occlusive. Donc s'il est possible de conclure quant à une probable absence de dysfonction véno-occlusive, quand l'indice de résistance est supérieur ou égal à 1, il est beaucoup plus difficile d'être affirmatif quant à son existence, en raison de l'absence de vérification possible de la qualité de la relaxation vasculotissulaire. Donc, lorsqu'au terme d'une exploration bien conduite, la vitesse télédiastolique est supérieure à 5 cm par seconde et ou l'indice de résistance à 0,85, la question est de savoir s'il existe vraiment une dysfonction véno-occlusive ou pas. Par exemple, une hyperadrénergie liée au stress du patient peut contrarier la relaxation. D'autres, les facteurs de risque cardiovasculaire que sont le tabac, l'hypertension ou l'hypercholestérolémie.